Merci de rester à l'écoute de RFI, les midi à Paris, 10h en temps universel. Le journal tout de suite avec vous, Marion Kazanov, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. À la une, ce grave accident au Nigeria, 52 morts au moins après l'explosion d'un camion-citerne dans l'ouest. C'était après une collision hier sur une route très empruntée, les détails en début de journal. Aux États-Unis, les derniers préparatifs avant le grand débat de demain, débat entre les candidats à la présidentielle Kamala Harris et Donald Trump. Et puis l'hymne chinois aura beaucoup, beaucoup résonné ces 11 derniers jours à Paris. La Chine a terminé en tête du classement des médailles des Jeux paralympiques avec 94 médailles d'or. Elle a écrasé largement toute concurrence. Et on revient sur cet accident meurtrier au Nigeria. Selon les secours, plus d'une cinquantaine de personnes sont mortes après l'explosion d'un camion-citerne. Ça s'est passé hier dans l'ouest du pays. Pauline Azidi, l'accident est survenu après une collision sur une route fréquentée.
Oui, les images de l'accident sont impressionnantes. Le camion-citerne gît entièrement calciné, renversé sur le bord de la route au nord de la localité d'Agueil, dans l'état du Niger. C'est à l'ouest du pays, environ 170 km de la capitale Abuja. La collision entre les deux véhicules, un camion plein de carburant et un camion remorque transportant des passagers et du bétail, a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, vers 00h30. Selon le dernier bilan des autorités, 52 personnes ont trouvé la mort. Un bilan revu à la hausse ce lundi matin pour beaucoup des passagers de la remorque dont les premiers corps ont été enterrés dès ce dimanche. Plusieurs blessés ont aussi été acheminés à l'hôpital. Les routes du Nigeria sont décrites comme particulièrement dangereuses en raison de leur mauvais état. Les accidents sont fréquents, en grande partie à cause des excès de vitesse et du non-respect du code de la route. En 2020, plus de 1500 accidents de camions-citernes ont été répertoriés dans le pays, provoquant 535 morts et plus de 1000 blessés, selon l'autorité fédérale de la sécurité routière du Nigeria.
Pauline Azidi du service Afrique de RFI. Aux États-Unis, J-1, avant un rendez-vous très important de la campagne présidentielle, le débat entre Kamala Harris et Donald Trump, le premier et peut-être le dernier, à moins de 2 mois du scrutin. Et ce débat, les deux camps s'y préparent depuis des semaines, mais chacun à sa manière, Loubna Anaki.
Ce sera l'un des moments les plus décisifs de cette campagne présidentielle et chacun des deux camps a sa façon de se préparer. Côté Donald Trump, c'est sous forme de réunion politique, pas question de parler de préparation, débat dans l'entourage du républicain. L'ancien président s'assoit autour d'une table avec ses conseillers qui lui posent des questions ou lui rappellent le bilan de son mandat à la Maison-Blanche. Les conseillers de Donald Trump espèrent qu'il s'en tiendra aux questions politiques sans tomber dans les sorties misogynes, racistes ou les longues réponses sans queue ni tête. Ils veulent absolument éviter l'image d'un Donald Trump trop agressif et chaotique. Côté Kamala Harris, c'est plus studieux. La préparation se passe dans un hôtel où l'équipe de la démocrate a installé une réplique du studio où doit avoir lieu le débat et l'un de ses conseillers joue même le rôle de Donald Trump. La vice-présidente n'a pas eu à débattre de son bilan ou de ses politiques depuis sa candidature pour les primaires démocrates il y a plus de 4 ans. Son équipe espère donc qu'elle sera capable de bien définir son programme et de marquer des points contre Donald Trump dans une course qui reste encore très serrée. Loubna Anaki, New York, RFI.
En France, le nouveau Premier ministre Michel Barnier poursuit ses consultations. Il doit former un gouvernement, un exercice très difficile dans une assemblée fragmentée en 3 blocs où aucun n'a de majorité absolue. Certains partis menacent même de censurer le futur gouvernement de Michel Barnier. Toujours en France, l'association Emmaüs dit réfléchir à une indemnisation des victimes de l'abbé Pierre. 6 semaines après de premières révélations, il y a quelques jours, un cabinet spécialisé a dévoilé 17 nouvelles accusations d'agressions sexuelles, voire de viols perpétrés par l'abbé Pierre et pour la première fois certaines concerneraient des mineurs. Le prêtre mort en 2007 était jusque-là un symbole de la lutte contre la pauvreté en France et il avait créé cette association Emmaüs. On revient sur ce scandale qui secoue donc toute l'association tout à l'heure dans la première partie d'RFI Midi dès 13h, heure de Paris avec Anne Kantner. Un pasteur arrêté aux Philippines, déjà recherché aux États-Unis, il a été inculpé de trafic d'êtres humains par un tribunal philippin. Plus de 2000 policiers ont été mobilisés pour retrouver ce prédicateur évangélique qui bénéficie à Rimnipol des liens étroits avec la famille de l'ancien président philippin.
Apollo Quiboloy n'est pas un inconnu aux Philippines. Celui qui se fait appeler Fils de Dieu a fondé en 1985 une secte nommée au Royaume de Jésus-Christ. C'était le début du télévangélisme aux Philippines. Aujourd'hui, cette communauté religieuse revendique 7 millions de fidèles dans le monde. En 2021, leur chef est inculpé par la justice américaine. Elle accuse d'avoir fait venir aux États-Unis pendant 16 ans des jeunes filles et des femmes, toutes âgées de 12 à 25 ans, officiellement présentées comme des assistantes personnelles. Elles auraient été ensuite forcées à avoir des relations sexuelles avec Apollo Quiboloy. L'homme, aujourd'hui âgé de 71 ans, est aussi poursuivi par la justice de son pays et il est soupçonné de violences sexuelles sur des fidèles de son groupe religieux. Lui rejette toutes les accusations. Il y a 2 semaines, il a réussi à s'échapper lors d'une première tentative d'arrestation par la police philippine. Il s'en est suivi une véritable chasse à l'homme au bout de laquelle le célèbre pasteur, recherché également par le FBI, a été finalement retrouvé. Pour l'instant, on ignore si les États-Unis vont demander son extradition.
Arim Lipold, le super typhon Yaji a fait au moins 59 morts au Vietnam. Le bilan humain a été revu à la hausse il y a une heure. 247 blessés également dans ce bilan. Cette tempête a provoqué de gros dégâts, également inondations, coupures d'électricité dans des millions de foyers, maisons détruites. La tempête avait auparavant frappé la Chine et les Philippines, faisant là aussi des victimes, au moins 24 morts et des dizaines de blessés. Ces typhons seront désormais de plus en plus récurrents et violents, selon les scientifiques, en raison du réchauffement climatique. RFI, 10h07 en temps universel, 18h07 à Pékin. La Chine, loin devant aux Jeux paralympiques, avec 94 médailles d'or, 220 au total. Elle est indétrônable depuis 20 ans et a brillé particulièrement dans des sports comme le para-athlétisme, la natation ou encore le tennis de table. Correspondance à Pékin de Clea Broderst.
L'approche chinoise de la recherche et de la formation des athlètes paralympiques est très organisée et soutenue par un investissement important du gouvernement. Les talents sont identifiés par le biais d'un réseau d'associations de sport pour handicapés, de programmes communautaires et de compétitions nationales. Les athlètes prometteurs sont ensuite sélectionnés pour les centres d'élite, où ils sont ensuite soumis à un entraînement rigoureux et ils bénéficient de la technologie liée à la rééducation et à l'analyse des performances. L'investissement important du gouvernement dans les sports pour handicapés fait partie d'une stratégie plus large visant à projeter l'image globale de la Chine et assurer l'inclusion sociale. Pékin présente son succès dans le domaine du parasport comme le reflet de ses valeurs socialistes visant à élever la communauté des personnes handicapées. Cela correspond aux théories de l'intervention de l'État dans le sport en tant qu'outil de légitimité politique et de soft power. En Chine, l'enthousiasme n'a pas été aussi fort que pour les Jeux Olympiques. On pointe souvent du doigt des problèmes sociétaux plus vastes tels que l'attention limitée portée aux défis quotidiens auxquels sont confrontées les personnes handicapées. Clea Broderst, Pékin, RFI.
Et le bilan complet de ces Jeux paralympiques est à retrouver sur notre site rfi.fr avec les moments forts, les portraits aussi et des para-athlètes qui auront marqué ces Jeux. Un peu de musique pour refermer ce journal avec le nouvel album de Yuri Buenaventura, colombien francophile. Ce nouvel opus s'appelle « Amame, aime-moi », un aperçu avec Hugo Casanino.
Ne me quittez pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier.
1996, la France entière découvre le chanteur colombien Yuri Buenaventura avec cette reprise de Jacques Brel, Ne me quitte pas. Il faut dire qu'il arrive dans une France début des années 90 en pleine mode de la salsa. Les clubs parisiens font tourner une multitude de formations salsa dont bénéficie le jeune Yuri Buenaventura et il va très vite s'imposer comme l'un des meilleurs chanteurs. Grâce à cette reprise, il devient en France le premier salsero à obtenir un disque d'or. Enregistré à New York, Amame, son nouvel album, rend hommage justement à cette salsa dura qui l'inspire. Une salsa brute née de la rue et des ghettos latinos de la Grande Pomme dans les années 70. Il sera en tournée en 2025, notamment à la Salle Playel à Paris le 8 avril. Premier extrait de ce nouvel album, Aquí Llegamos, un titre que l'on pourrait traduire par On est là et que vous retrouvez dans la playlist RFI.
Si, donde nacido yo, somos negros en mi tierra.
Yuri Buenaventura pour refermer ce journal. Bientôt midi 10 à Paris, 10h10 en temps universel à suivre sur RFI, 8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide.